La vie de Marianne, troisième partie. Oui, madame, vous avez raison. Il y a trop longtemps que vous attendez la suite de mon histoire. Je vous demande pardon, je m'excuserai point, j'ai tort, et je commence. Je vous ai dit qu'on frappa à la porte pendant que madame Dutour me prêchait une économie dont elle n'approuvait pas, pourtant que je me dispensasse à son profit, c'est-à-dire à sa fête, à celle de Toinon, à la mienne et à de certains jours de réjouissance, où ce serait fort bien fait de dépenser mon argent pour la régaler, elle et sa maison. C'était donc là à peu près ce qu'elle me disait quand le bruit qu'on fit à la porte l'interrompit. « Qui est là ? » cria-t-elle tout de suite, et sans se lever. « Qu'est-ce qui frappe ?» Je venais d'entendre arrêter un carrosse, et comme on répondit « Oh, qui était là ?» de Madame Dutour, il me sembla reconnaître la voix de la personne qui répondait. Oh, « Je pense que c'est Monsieur de Climat, lui dis-je. « Croyez-vous ? » me dit-elle en courant vite. Et je ne me trompais pas, c'était lui-même. « Eh mon Dieu, monsieur, je vous fais bien excuse, vraiment, je me serais bien plus pressé si j'avais cru que c'était vous, » lui dit-elle. « Tenez, Marianne et moi, nous étions encore à table. Il n'y a que nous deux ici. » Jeannot, c'était son fils, est avec sa tante qui doit le mener tantôt à la foire, car il faut toujours que cet enfant soit fourré chez elle, surtout les fêtes. Madelon, c'était sa servante, est à la noce d'un cousin qu'elle a. Je lui ai dit, 20 ans, ce n'arrive pas tous les jours, et en voilà pour longtemps. De l'autre côté, Toinon est allé voir sa mère, qui ne la voit pas souvent, la pauvre femme. Elle demeure si loin, c'est au faubourg Saint-Marceau. Imaginez-vous s'il y a à trotter. Oh, et tant mieux, j'en suis bien aise, moi. Cela fait que la femme fille ne sort guère. De sorte que je suis resté seul en attendant Marianne, qui par-dessus le marché s'est avisé de tomber en venant de l'église, et qui s'est fait mal à un pied, ce qui est cause qu'elle n'a pu marcher, et qu'il a fallu la porter près de là, dans une maison, pour accommoder son pied, pour avoir un chirurgien qui ne se trouve pas là à point nommé. Il faut qu'il vienne, qu'il voie ce que c'est, qu'on déchausse une fille, qu'on la rechausse, qu'elle se repose. Ensuite un fiacre dont elle a eu besoin et qui ne l'a pas ramené ici tout éclopé, pour ma peine de l'avoir attendu jusqu'à 1h30. Et puis est-ce là tout ? Non, vous croyez qu'on va dîner, n'est-ce pas ? Bon, n'y avait-il pas encore ce maudit fiacre que j'ai voulu payer moi-même pour épargner l'argent de Marianne, qui ne se connaît pas à cela, et qui, malgré moi, a été lui donner plus qu'il le fallait ? Oh, j'étais dans une colère, aussi j'aurais battu si j'avais été assez forte. Il y a eu donc bien du bruit, dit Monsieur de Climal. « Oh, du bruit, si vous voulez, » reprit-elle. « Je me suis un peu emporté contre lui, mais au surplus, il n'y a eu que quelques voisins qui se sont assemblés à notre porte, quelques passants par-ci, par-là. »« Tant pis, » lui dit-il assez froidement. « Ce sont là de ces scènes qu'il faut éviter le plus qu'on peut. » Et Marianne, qui l'a payé, a pris le bon parti. « Comment va votre pied ?» ajouta-t-il en s'adressant à moi. « Assez bien, lui dis-je, je m'y sens presque plus que de la faiblesse, j'espère bien que demain il n'y aura plus rien. »« Avez-vous achevé de dîner ?» nous dit-il. « Oh, sans doute, » reprit Madame Dutour, « nous causions de choses et d'autres. Ne vous asseyez-vous pas, monsieur ? Avez-vous quelque chose à dire à Marianne ?»« Oui, » dit-il, « j'ai à lui parler. »« Eh bien, » reprit-elle, « ayez donc la bonté de passer dans la salle. Vous ne seriez pas bien ici, c'est notre taudis. Venez, Marianne, appuyez-vous sur moi. Je vous mènerai jusque-là. Attendez, attendez, je m'en vais chercher mon aune, avec quoi vous soutiendrez. »« Non, 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 dit M. de Climal, je l'aiderai. Prenez mon bras, mademoiselle. » Et là-dessus, je me lève, Nous rentrâmes dans la boutique pour passer dans cette petite salle où je crois que j'aurais fort bien été toute seule en me soutenant d'une canne. Ah ça, dit Madame Dutour, pendant que je m'asseyais dans un fauteuil, puisque vous avez là à entretenir Marianne, moi je vais prendre ma coiffe et sortir pour aller entendre un petit bout de vêpres. Elles seront bien avancées, mais je ne perdrai pas tout. J'en aurai toujours peu ou prou. Allez, adieu, monsieur. Excusez si je m'en vais. Je vous laisse le gardien de la maison. Marianne, si quelqu'un vient me demander, dites que je ne serai pas longtemps. Entendez-vous, ma fille? Monsieur, je suis votre servante. Elle nous quitta alors, sortit un moment après, et ne fit que tirer la porte de la rue sans la fermer, parce qu'il ne pouvait entrer qui que ce soit dans la boutique sans que nous le vissions de la salle. Jusque-là, M. de Climal avait eu l'air sombre et rêveur, ne m'avait pas dit quatre paroles et semblait attendre qu'elle fût partie pour entamer la conversation. De mon côté, à l'air intrigué que je lui voyais, je me doutais de ce qu'il allait me dire et j'en étais dégoûté d'avance. Apparemment qu'il va être question de son amour, pensais-je en moi-même. Car avant que mon aventure avec Valville, vous vous souvenez, bien que j'avais déjà conclu que M. de Climal m'aimait, j'en étais encore plus sûr depuis ce qui s'était passé chez son neveu. Un dévot qui avait rougi de m'y rencontrer, qui avait faim de ne m'y pas connaître, ne pouvait y avoir été si confus et si dissimulé que parce que le front de sa conscience sur mon chapitre ne lui faisait pas honneur. On appelle cela rougir devant son péché, et vous ne sauriez croire combien alors ce vieux pécheur me paraissait laid, combien sa présence m'était à charge. 3 jours auparavant, en découvrant qu'il m'aimait, je m'étais contenté de penser que c'était un hypocrite, que je n'avais qu'à laisser être ce qu'il faudrait, et qu'il n'y gagnerait rien. Mais à présent, je m'en restais pas là. Je ne me contentais plus pour lui dans cette tranquillité indifférente. Ses sentiments me scandalisaient, m'indignaient, le cœur m'en soulevait. En un mot, ce n'était plus le même homme à mes yeux. Les tendresses du neveu, jeune, aimable et galant, m'avaient appris à voir l'oncle tel qu'il était et tel qu'il méritait d'être vu. Elle l'avait flétri et m'éclairait sur son âge, sur ses rides et sur toute la laideur de son caractère. Quelle folle et ridicule figure n'a-t-il pas été obligé de faire chez Valville? Et que va-t-il me dire avec son vilain amour qui offense Dieu? Va-t-il m'exhorter à ne valoir mieux que lui sous prétexte de ses services qu'il me rendra? Me disais-je. Oh, qu'il est haïssable! Comment un homme, à cet âge-là, ne se trouve-t-il pas lui-même horrible? Être aussi vieux qu'il est, avoir l'air dévot, passer pour un si bon chrétien, et ensuite venir dire en secret à une jeune fille « Ne prenez pas garde à cela, je ne suis qu'un fourbe, je trompe tout le monde et je vous aime en débauché honteux, qui voudrait bien aussi vous rendre libertine. Oh, ne voilà-t-il pas un amant bien ragoûtant ?» Et c'est là, à peu près, ces petites idées dont je m'occupais pendant qu'il gardait le silence en attendant que la Dutour fût partie. Enfin, nous restâmes seuls dans la maison. « Que cette femme est babillarde !» me dit-il en levant les épaules. « Oh, j'ai cru que nous pourrions nous en défaire !»« Oui, lui répondis-je, elle est assez à parler. D'ailleurs, ne s'imagine pas que vous ayez rien de si secret à me dire. » « Que pensez-vous de notre rencontre chez mon neveu ?» reprit-il en souriant. « Oh, rien, dis-je, sinon que c'est un coup de hasard. Vous avez très sagement fait de ne pas me reconnaître, me dit-il. C'est qu'il m'a paru que vous le souhaitiez ainsi, répondis-je. Et à propos de cela, monsieur, d'où vient est-ce que vous êtes bien est-ce que je ne vous dis pas le point nommé et que vous avez fait ?» semblant de m'avoir jamais vu. C'est, me répondit-il d'un air insinuant et doux, qu'il vaut mieux, et pour vous et pour moi, qu'on ignore les liaisons que nous avons ensemble, qui dureront plus d'un jour et sur lesquelles il n'est pas nécessaire qu'on glose, ma chère fille. Vous êtes si aimable qu'on ne manquerait pas de croire que je vous aime. Oh, il n'y a rien à appréhender, repris-je d'un ton ingénu. On sait que vous êtes un si honnête homme. Oui, oui, dit-il, comme on m'a dit non. On le sait, on a raison de le croire, mais Marianne, on n'en est pas moins honnête homme pour aimer une jolie fille. Quand je dis honnête homme, répondis-je, j'entends un homme de bien, pieux et plein de religion. Ce qui, je crois, empêche qu'on ait de l'amour, à moins que ce ne soit pour sa femme. Mais ma chère enfant, me dit-il, vous me prenez donc pour un saint. Oh, ne me regardez point sur ce pied-là. Vraiment, vous me faites trop d'honneur. Je ne le suis point, et un saint même aurait bien de la peine à l'être auprès de vous. Oui, bien de la peine, juger des autres. Et puis je ne suis pas marié. Je n'ai plus de femme à qui je doive mon cœur, moi. Il ne m'est point défendu d'aimer si je suis libre. Mais nous parlerons de cela. Revenons à notre accident. Vous êtes tombé, il a fallu vous porter chez mon neveu, qui est un étourdi, et qui aura débuté par vous dire des galanteries, n'est-il pas vrai ? Il vous en comptait, au moins, quand nous sommes entrés. Cette dame et moi, il n'y a rien là d'étonnant. Il vous a trouvé ce que vous êtes, c'est-à-dire belle, aimable, charmante. En un mot, ce que tout le monde de vous trouvera. Mais comme je suis assurément le meilleur ami que vous ayez dans le monde, et c'est de quoi j'espère bien vous donner des preuves, dites-moi, ma belle enfant, n'auriez-vous pas quelque penchant à l'écouter ? Il m'a semblé vous voir un air assez satisfait auprès de lui. Me suis-je trompé ? Moi, monsieur, répondis-je, non, je l'écoutais parce que j'étais chez lui. Je ne pouvais pas faire autrement, mais il ne me disait rien que de fort poli et de fort honnête. De fort honnête, dit-il en répétant ce mot. Prenez garde, Marianne. Ceci pourrait être bien venir d'un peu de prévention. Hélas, que je vous plaindrais dans la situation où vous êtes, si vous étiez tenté de prêter l'oreille à de pareilles cajoleries. Oh, mon Dieu, que ce serait dommage, et que deviendriez-vous ? Mais dites-moi, vous a-t-il demandé où vous demeuriez ? Je crois que oui, monsieur, répondis-je en souriant. Et vous, qui n'en saviez pas les conséquences, vous lui avez sans doute appris, ajouta-t-il. Je n'en ai point fait difficulté, repris-je. Aussi bien l'aurait-il su quand je serais monté dans le fiacre, puisqu'avant que de partir, il faut bien dire où l'on va. Vous me faites trembler pour vous, s'écria-t-il d'un air sérieux et compatissant. Oui, trembler. Voilà un événement bien fâcheux, et qui aura les plus malheureuses suites du monde. Si vous ne les prenez pas, si, il vous perdra, ma fille. Oh, je n'exagère rien, et je saurais me lasser de le dire. Hélas, quel dommage qu'avec les grâces et la beauté que vous avez, vous devinssiez la proie d'un jeune homme qui ne vous aimera point, car ces jeunes fous-là savent-ils aimer ? Ont-ils un cœur, ont-ils des sentiments, de l'honneur, un caractère ? Ils ont des vices, surtout avec une fille de votre état, que mon neveu croira-t-on au-dessous de lui, et qu'il regardera comme une jolie grisette, dont il va tâcher de faire une bonne fortune, et à qui il se promet bien de tourner la tête. Ne vous attendez pas à autre chose. De petites galanteries, de petits présents qui vous amuseront, les protestations les plus tendres que vous croirez, un étalage de sa fausse passion qui vous séduira, un éloge éternel de vos charmes, enfin, de petits rendez-vous que vous refuserez d'abord, que vous accorderez après et qui cesseront tout d'un coup par l'inconstance et par les dégoûts du jeune homme. Voilà tout ce qui en arrivera. Voyez, cela vous convient-il ? Je vous le demande, est-ce là ce qu'il vous faut ? Vous avez de l'esprit, de la raison, Il n'est pas possible que vous ne considériez quelquefois le cas où vous êtes, que vous n'en soyez inquiété, effrayé. On a beau être jeune, distraite, imprudente, tout ce qui vous plaira, on ne saurait pourtant oublier son état, quand il est aussi triste, aussi déplorable que le vôtre. Et je ne dis rien de trop, vous le savez, Marianne. Vous êtes une orpheline, et une orpheline inconnue à tout le monde, qui ne tient à qui que ce soit sur la terre. Donc qui que ce soit ne s'inquiète et ne se soucie, ignoré pour jamais de notre famille, que vous ignorez, de même sans parents, sans biens, sans amis, moi seul excepté, que vous n'avez connu que par hasard, et qui suis le seul qui s'intéresse à vous, et qui, à la vérité, vous suis tendrement attaché, comme vous le voyez bien, par la manière dont je vous parle, et que me tiendra qu'à vous de le voir infiniment plus dans la suite. Car je suis riche, soit dit en passant, et je puis vous être d'un grand secours, pourvu que vous entendiez vos véritables intérêts, et que j'ai lieu de me louer de votre conduite. Quand je dis de votre conduite, c'est de la prudence que j'entends, et non pas une certaine austérité de mœurs. Il n'est pas question ici d'une vie rigide et sévère, qui vous serait difficile et peut-être impossible de mener. Vous n'êtes pas même en situation de regarder de trop près à vous là-dessus. Dans le fond, je vous parle, et en homme du monde, ici, entendez-vous, et en homme qui, après tout, songe qu'il faut vivre, et que la nécessité est une chose terrible. Ainsi, quelque ennemi que je vous paraisse de ce qu'on appelle amour, ce n'est pas contre toutes sortes d'engagements que je me déclare. Je ne vous dis pas de les fuir tous. Il y en a d'utiles et de raisonnables, de même qu'il y en a de ruineux et d'insensés, comme le serait celui que vous prendriez avec mon neveu, dont l'amour aboutira à rien qu'à vous ravir tout le fruit du seul avantage que je vous connaisse, qui est d'être aimable. Vous ne voudriez pas perdre votre temps à être la maîtresse d'un jeune étourdi, que vous aimeriez tendrement et de bonne foi à la vérité, ce qui serait un plaisir, mais un plaisir bien malheureux, puisque le petit libertin ne vous aimerait pas de même, et qu'au premier jour il vous laisserait sans une indigence, dans une misère dont vous auriez plus de peine à sortir que jamais. Je dis une misère parce qu'il s'agit de vous éclairer et non pas d'adoucir les termes. Et c'est à tout cela que j'ai songé depuis que je vous ai quitté. Voilà ce qui m'a fait sortir de si bonne heure de la maison où j'ai dîné. Car j'ai bien des choses à vous dire, Marianne. Je suis dans de bons sentiments pour vous. Vous vous en êtes sans doute aperçu. Oui, monsieur, lui répondis-je, les larmes aux yeux, confuses et même aigries de la triste peinture qu'il venait de faire de mon état, et scandalisé du vilain intérêt qu'il avait à m'effrayer tant. Oui, parlez. Je me fais un devoir de suivre en tout les conseils d'un homme aussi pieux que vous. Laissons là ma piété, vous dis-je, reprit-il en s'approchant d'un air badin pour me prendre la main. Je vous ai déjà dit dans quel esprit je vous parle. Encore une fois, je mets ici la religion à part. Je ne vous prêche point, ma fille. Je vous parle raison. Je ne fais ici auprès de vous que le personnage d'un homme de bon sens, qui voit que vous n'avez rien et qu'il faut pourvoir aux besoins de la vie, à moins que vous ne vous déterminiez à servir, ce dont m'avait paru fort éloigné, ce qui effectivement ne vous convient pas. Non, monsieur, lui dis-je en rougissant de colère. Non, j'espère que je ne serai pas obligé d'en venir là. Ce serait d'une triste ressource, me dit-il. Je ne saurais moi-même y penser sans douleur. Car je vous aime, ma chère enfant, et je vous aime beaucoup. J'en suis persuadé, lui dis-je. Je compte sur votre amitié, monsieur, et sur la vertu dont vous faites profession, ajoutai-je pour lui ôter la hardiesse de s'expliquer plus clairement. Mais je n'y gagnais rien. Et Marianne, me répondit-il, je ne fais profession de rien que d'être faible, et plus faible qu'un autre. Et vous savez fort bien ce que je veux dire par le mot d'amitié. Mais vous êtes une petite malicieuse qui vous divertissez et qui feignez de ne pas m'entendre. Oui, je vous aime, vous le savez. Vous y avez pris garde. Et je ne vous apprends rien de nouveau. Je vous aime comme une belle et charmante fille que vous êtes. Ce n'est pas de l'amitié que j'ai pour vous, mademoiselle. J'ai cru d'abord que ce n'était que cela, mais je me trompais. C'est de l'amour et du plus tendre, m'entendez-vous à présent, de l'amour, et vous ne perdrez rien au change. Votre fortune n'en ira pas plus mal. Il n'y a point d'ami qui vaille à l'amant comme moi. Vous, mon amant ? M'écriai-je en baissant les yeux. Vous, monsieur ? Oh, je ne m'y attendais pas. Hélas, ni moi non plus, reprit-il. Ceci est une affaire de surprise, ma fille. Vous êtes dans une grande infortune. Je n'ai rien vu de si à plaindre que vous, de si digne d'être secouru. Et je suis né, moi, avec un cœur sensible au malheur d'autrui. Et je m'imagine n'être que généreux en vous secourant, que compatissant, que pieux même, puisque vous me regardez aussi comme tel. Et il est vrai que je suis dans l'habitude de faire tout le bien qu'il m'est possible. J'ai cru d'abord que c'était de même avec vous. J'en ai agi imprudemment dans cette confiance, et il m'en est arrivé ce que je méritais. C'est que ma confiance a été confondue. Car je ne prétends pas m'excuser, j'ai tort. Il aurait été mieux de vous pas vous aimer. J'en serais plus louable, assurément. Il fallait vous craindre, vous fuir, vous laisser là. Mais, d'un autre côté, si j'avais été si prudent, où en seriez-vous, Marianne ? Dans quelles affreuses extrémités alliez-vous vous trouver ? Voyez combien ma petite faiblesse ou mon amour, oh, comme il vous plaira l'appeler, vient à propos pour vous. Ne semble-t-il pas que c'est là la Providence qui permet que je vous aime et qui vous tire d'embarras à mes dépens? Si j'avais pris garde à moi, vous n'aviez point d'asile, et c'est cette réflexion-là qui me console quelquefois des sentiments que j'ai pour vous. Je me les reproche moins parce qu'ils n'étaient nécessaires, et que d'ailleurs ils m'humilient. Oh, c'est un petit mal qui fait un grand bien. Un bien infini, vous n'imaginez pas jusqu'où il va. Je ne vous ai parlé que de cette indigence où vous resteriez au premier jour si vous écoutiez mon neveu, lui ou tout autre. Et je ne vous ai rien dit de l'opprobre qui la suivrait. Et que voici, c'est que la plupart des hommes, et surtout des jeunes gens, ne ménagent pas une fille comme vous quand ils la quittent. C'est qu'ils se vantent d'avoir réussi auprès d'elle. C'est qu'ils sont indiscrets, impudents et moqueurs sur son compte. C'est qu'ils l'indiquent, qu'ils la montrent, qu'ils disent aux autres « la voilà ». Oh, jugez quelle aventure ce serait là pour vous, qui êtes la plus aimable personne de votre sexe et qui par conséquent seriez aussi la plus déshonorée. Car dans un pareil cas, c'est ce qu'il y a de plus beau qui est le plus méprisé, parce que c'est ce qu'on est le plus fâché de trouver méprisable. Non pas qu'on exige qu'une belle fille n'ait point d'amant. Au contraire, n'en est-elle point, on lui en soupçonne. Il lui sied mieux d'en avoir qu'à une autre, pourvu que rien n'éclate, et qu'on puisse toujours penser, en la voyant, que c'est un grand bonheur que d'être bienvenu d'elle. Or, ce n'est plus un quand on l'est décrié. Et vous ne risquez rien de tout cela avec moi. Vous sentez bien, du caractère dont je suis, que votre réputation ne court aucun hasard. Je ne serais pas curieux qu'on sache que je vous aime, ni que vous y répondez. C'est dans le secret que je prétends réparer vos malheurs, et vous assurer sourdement une petite fortune, qui vous mette pour jamais en état de vous passer du secours des gens qui ne me ressembleraient pas. Ils seraient plus ou moins riches, mais tous avares, tous amoureux sans tendresse, qui ne vous donneraient qu'une aisance médiocre et passagère, et dont vous seriez pourtant obligé de souffrir l'amour, même en restant chez Madame Dutour. À ce discours, je me sentis saisi d'une douleur si vive, je me fis tant de pitié à moi-même de me voir exposé à l'insolence d'un pareil détail, que je m'écriai en fondant en larmes : Mais mon Dieu, à quoi suis-je donc réduite ? Et comme il crut que mon exclamation venait de l'épouvante qu'il me donnait, doucement, me dit-il d'un air consolant et en me serrant la main, doucement, mon aimable et chère fille, rassurez-vous, puisque nous sommes rencontrés, vous voilà hors du péril dont je parle. Il est vrai que vous ne l'éviteriez pas sans moi, car il ne faut pas vous flatter, vous n'êtes point né pour être une lingère. Ce n'est point une ressource pour vous que ce métier-là. Vous n'y feriez aucun progrès, vous le sentez bien, j'en suis sûr. Et quand vous y rentriez habile, il faut de l'argent pour devenir maîtresse, et vous n'en avez pas. Vous seriez donc toujours fille de boutique. Oh, je vous prie, gagneriez-vous dans cet état de quoi subvenir à tous vos besoins ? Et belle comme vous êtes, manquant de mille choses nécessaires, comment ferez-vous si vous ne consentez pas que les gens en question vous aident ? Et si vous y consentez, quelle horrible situation ! Eh, monsieur, lui dit-il en sanglotant, ne m'entretenez plus à veiller, ayez cette considération pour moi et pour ma jeunesse. Vous savez que je sors d'entre les mains d'une fille vertueuse qui ne m'a pas élevé pour entendre de pareils discours, et je ne sais pas comment un homme comme vous est capable de me les tenir sous prétexte que je suis pauvre. Non, ma fille, me répondit-il en me serrant les bras, non, vous ne l'êtes point. Vous avez du bien, puisque j'en ai. C'est à moi désormais à vous tenir lieu de vos parents que vous n'avez plus. Tranquillisez-vous. Je n'ai voulu dans ce que je vous ai dit que vous aspirez un peu de frayeur utile, que vous montrez de quelles conséquences il était pour vous non seulement que vous vous connaissiez, mais encore que je prisse sans m'en apercevoir cette tendre inclination qui m'attache à vous, qui m'humilie pourtant, mais dont je subis humblement la petite humiliation, parce qu'en effet, cet événement a quelque chose d'admirable. Oui, la fin de vos malheurs en dépendait. Il est certain que sans ce penchant imprévu, je ne vous aurais pas assez secouru. Je n'aurais été qu'un homme de bien envers vous, qu'un bon cœur, comme on l'est à l'ordinaire, et cela ne vous aurait pas suffi. Vous aviez besoin que je fusse quelque chose de plus. Il fallait que je vous aimasse, que je sentisse de l'amour pour vous. Je dis un amour d'inclination. Il fallait que je ne puisse le vaincre et que, forcé d'y céder, je me fisse du moins un devoir de racheter ma faiblesse et d'expier en vous sauvant de tous les inconvénients de votre état. C'est aussi ce que j'ai résolu, ma fille. Et j'espère que vous ne vous y opposerez pas. Je compte même que vous ne serez pas ingrate. Il y a beaucoup de différence de votre âge au mien, je l'avoue. Mais prenez garde dans le fond. Je ne suis vieux que par comparaison. Et parce que vous êtes bien jeune, car avec tout autre qu'avec vous, je serai d'un âge fort supportable, ajouta-t-il du ton d'un homme qui se tend encore à ses bonnes mines. Ainsi, voyons, convenons de nos mesures avant que la Dutour arrive. Je crois que vous ne songez plus à être lingère. De l'autre côté, voici Valville, qui est une tête folle, à qui vous avez dit où vous demeuriez, et qui infailliblement cherchera à vous revoir. Il s'agit donc d'échapper à sa poursuite et de lui dérober nos liaisons, qui n'ignorerait pas longtemps si vous restiez chez cette femme-ci. De sorte que l'unique parti qu'il y a à prendre, c'est de disparaître dès demain de ce quartier, de vous loger ailleurs, ce qui ne sera pas difficile. Je connais un honnête homme que je charge quelquefois du soin de mes affaires, qui est ce qu'on appelle un solliciteur de procès, dont la femme est très raisonnable, et qui a une petite maison fort jolie, où il y a un appartement que vient de quitter un homme de province, à qui il le louait, et cet appartement J'irai dès ce soir le retenir pour vous. Vous serez là, on ne peut mieux, surtout venant de ma part. Ce sont de bonnes gens qui seront charmés de vous avoir, qui s'en tiendront honorés d'autant plus que vous y paraîtrez d'une manière convenable et qui vous y fera respecter. Vous y arriverez sous le titre d'une de mes parentes, qui n'a plus ni père ni mère, que j'ai retirée de la campagne, et dont je veux prendre soin, ce qui, joint à la forte pension que vous y paierez, car vous mangerez avec eux, à la parure qu'ils vous verront, à l'ameublement que vous aurez, dans 2 jours, au maître que je vous donnerai, maître de danse, de musique, de clavecin, comme il vous plaira. Ce qui joint, dis-je, à la façon dont j'agirai avec vous, quand j'irai vous voir, achèvera de vous rendre totalement la maîtresse chez eux. N'est-il pas vrai? Il n'y a point à hésiter, ne perdons point de temps. Marianne, et pour préparer là du tour à votre sortie, dites-lui ce soir que vous ne vous sentez pas propre à son négoce et que vous allez dans un couvent où demain matin on doit vous mener sur les 10 heures. En conformité de quoi, je vous enverrai la femme de l'homme en question, qui viendra en effet vous prendre avec un carrosse et qui vous conduira chez elle, où vous me trouverez. N'en êtes-vous pas d'accord, dites? Et ne voulez-vous pas bien aussi que, pour vous encourager, pour vous prouver la sincérité de mes intentions, car je ne veux pas que vous ayez le scrupule de m'en croire totalement sur ma parole, ne voulez-vous pas bien, dis-je, qu'en attendant mieux, je vous apporte demain un petit contrat de 500 livres de rente? Parlez, ma belle enfant, serez-vous prête demain? Viendra-t-on? Oui, n'est-ce pas? D'abord, je ne répondis rien. Une indignité si déclarée me confondait, me coupait la parole. Je restais immobile, les yeux baissés, mouillés de larmes. « À quoi rêvez-vous donc, ma chère Marianne ?» me dit-il. « Le temps nous presse. Là du tour va rentrer, en est-ce fait? Parlerai-je ce soir à mon homme ?» À ces mots, revenant à moi. « Ah, monsieur, m'écriai-je, on ne vous connaît donc pas? Ce religieux qui m'a mené à vous m'avait dit que vous étiez un si honnête homme. » Mes pleurs et mes soupirs m'empêchèrent d'en dire davantage. « Eh, ma chère enfant, me répondit-il, quelle fausse idée vous faites-vous les choses? Hélas, lui-même, s'il savait mon amour, n'en serait point si surpris que vous le figurez, et n'en estimerait pas moins mon caractère. Il vous dirait que ce sont là de ces mouvements involontaires qui peuvent arriver aux plus honnêtes gens, au plus raisonnable, au plus pieux. Il vous dirait que, tout religieux qu'il est, il n'oserait pas jurer de s'en garantir, et qu'il n'y a point de faute tout aussi pardonnable qu'une sensibilité comme la mienne. Ne vous en faites donc point, monstre, Marianne, ajouta-t-il, en pliant imperceptiblement un genou devant moi. Ne m'en croyez pas le cœur moins vrai, moins digne de votre confiance, parce que je l'ai tendre. Ceci ne touche point à une probité. Je vous l'ai déjà dit, c'est une faiblesse, et non pas un crime, et une faiblesse à laquelle les meilleurs cœurs sont les plus sujets. Votre expérience vous l'apprendra. Ce religieux, dites-vous, a prétendu vous adresser à un homme vertueux. Aussi l'ai-je été jusqu'ici, aussi le suis-je encore, et si je l'étais moins, je ne vous aimerais peut-être pas. Ce sont vos malheurs et mes vertus naturelles qui ont contribué au penchant que j'ai pour vous. Et c'est pour avoir été généreux pour vous, vous avoir trop plaint, que je vous aime et vous me le reprochez. Vous que d'autres aimeront, qui ne me vaudront pas, vous qu'ils voudraient bien sans que votre fortune y gagne. Et vous me rebutez, moi. Par qui vous allez être quitte de toutes les langueurs, de toutes les opprobres qui menacent votre jour? Moi, dont la tendresse, et je vous le dis sans en être plus fier, est un présent que le hasard vous fait, moi dont le ciel, qui se sert de tout, va se servir aujourd'hui pour changer votre sort. » Il en était là de son discours, quand le ciel, qui osait pour ainsi dire faire son complice, le punit subitement par l'arrivée de Valville, qui, comme je l'ai déjà marqué, connaissait Madame Dutour et qui, de la boutique où il entra, passa dans la salle où nous étions et trouva mon homme dans la même posture où 2 ou 3 heures auparavant l'avait surpris M. de Climal. Je veux dire à genoux, devant moi, tenant ma main qu'il baisait et que je m'efforçais de retirer en un mot. La revanche était complète. Je fus la première à apercevoir Valville, et un geste d'étonnement que je fis, M. de Climal retourna la tête et le vit à son tour. Jugez de ce qu'il devint à cette vision. Elle le pétrifia, la bouche ouverte. Elle le fixa dans son attitude. Il était à genoux, il y resta. Plus d'action, plus de présence d'esprit, plus de paroles. Jamais hypocrite confondu ne fit moins le mystère de sa honte. Ne la laissa contempler plus à l'aise, ne plia de meilleure grâce sous le poids de son iniquité, et n'avoua plus franchement qu'il était un misérable. J'ai beau appuyer là-dessus, je ne peindrai pas ce qui en était. Moi, pour moi, qui n'avais rien à me reprocher, il me semble que je fus plus fâchée qu'interdite de cet événement. Et j'allais dire quelque chose quand Valville, qui avait d'abord jeté un regard assez dédaigneux sur moi, et qui ensuite s'était mis à contempler froidement la confusion de son oncle, me dit d'un air tranquille et méprisant, « Voilà qui est fort joli, mademoiselle. Adieu, monsieur, je vous demande pardon de mon indiscrétion. » Et là-dessus, il partit en me lançant encore un regard aussi cavalier que le premier, et au moment que M. de Climal se relevait. « Mais que voulez-vous dire avec ce voilà qui est joli ?» lui criai-je en me levant aussi avec précipitation. « Arrêtez, monsieur, arrêtez, vous vous trompez. Vous me faites tort. Vous ne me rendez pas justice. » J'eus beau crier, il ne revint point. « Courez donc après, monsieur, » dis-je alors à l'oncle, qui, tout palpitant encore et d'une main tremblante, ramenait son manteau sur ses épaules, car il en avait un. « Courez donc, monsieur, voulez-vous que je sois la victime de ceci ? Mais que va-t-il penser de moi ? Pour qui me prendra-t-il ? Mon Dieu, que je suis malheureuse !» Ce que je disais, la larme à l'œil, et si outré, que j'allais moi-même rappeler le neveu qui était déjà dans la rue. Mais l'oncle m'empêchant de passer, « Qu'allez-vous faire ?» me répondit-il. « Restez, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je sais la tournure qu'il faut donner à ce qui vient d'arriver. Est-il question d'ailleurs de ce que pense un petit sot que vous ne verrez plus si vous voulez ?»« Mais comment, s'il en est question, » repris-je avec emportement, « lui qui connaît Madame Dutour, à qui il dira ce qu'il en pense ?» Lui avec qui j'ai eu un entretien de plus d'une heure et qui par conséquent me reconnaîtra. Monsieur, ne peut-il pas me rencontrer tous les jours ? Peut-être demain ? Ne me méprisera-t-il pas ? Ne me regardera-t-il pas comme une indigne à cause de vous ? Moi qui suis sage, qui aimerais mieux mourir que de ne pas l'être, qui ne possède rien que ma sagesse, qu'on s'imaginera que j'aurais perdu. « Non, monsieur, je suis désolé. Je suis au désespoir de vous connaître. C'est le plus grand malheur qui pouvait m'arriver. Laissez-moi passer. Je veux absolument parler à votre neveu et lui dire à quelque prix que ce soit mon innocence. Il n'est pas juste que vous vous ménagiez à mes dépens. Pourquoi contrefaire le dévot si vous ne l'êtes pas ? J'ai bien affaire de toutes ces hypocrisies-là, moi. » « Petite ingrate que vous êtes, » me répondit-il en pâlissant, « est-ce là que vous payez mes bienfaits ? À propos de quoi parlez-vous de votre innocence ? Où avez-vous pris qu'on songe à l'attaquer? Vous ai-je dit autre chose, sinon que j'avais quelque inclination pour vous? À la vérité, mais qu'en même temps, je crie, la reprochais, que j'en étais fâché, que je m'en sentais humilié, que je la regardais comme une faute dont je m'excusais, et que je voulais l'effacer en la tournant à votre profit, sans rien exiger de vous qu'un peu de reconnaissance. Ne sont-ce pas là mes termes? Y a-t-il rien, tout cela, qui n'ait dû vous rendre mon procédé respectable? Eh bien, monsieur, lui dis-je, puisque ce sont là vos desseins, et que vous avez tant de religion, ne souffrez donc pas que cet incident-ci me fasse tort. Menez-moi votre neveu. Allons tout à l'heure lui dire ce qui en est, pour empêcher qu'il ne juge mal, aussi bien de vous que de moi. Vous teniez ma main quand il est entré. Je crois même que vous la baisiez malgré moi. Vous étiez à genoux. Et comment voulez-vous qu'il prenne cela pour de la piété, et qu'il ne s'imagine pas que vous êtes mon amant, et que je suis votre maîtresse, à moins que vous ne vous donniez la peine de le détromper? Il faut donc absolument que vous lui parliez, quand ce ne serait qu'à cause de moi. Vous y êtes obligé pour ma réputation, et même pour ôter le scandale, autrement, ce serait offenser Dieu. Et puis vous verrez que j'ai le meilleur cœur du monde, qu'il n'y aura personne qui vous chérira, qui vous respectera tant que moi, ni qui soit née si reconnaissante. Vous me ferez aussi tout le bien qu'il vous plaira. J'irai où vous voudrez, je vous obéirai en tout. Je serai trop heureuse que vous preniez soin de moi, que vous ayez la charité de ne point m'abandonner, pourvu qu'à présent vous ne fassiez plus mystère de cette charité à laquelle je me soumets, et que sans tarder davantage, vous veniez dire à monsieur de Valleville, mon neveu, vous ne devez point avoir mauvaise opinion de cette fille. C'est une pauvre orpheline que j'ai la bonté de secourir au bon chrétien que je suis. Et si tantôt j'ai fait semblant de ne pas connaître chez vous, c'est que je ne voulais pas qu'on sût mon action pieuse. Voilà tout ce que je vous demande, monsieur, en vous priant de me pardonner les mots que j'ai dits sans attention, qui vous ont déplu et que je réparerai par toute la soumission possible. Ainsi, dès que Madame Dutour sera rentrée, nous n'avons qu'à partir, aussi bien quand vous n'iriez pas, je vous avertis que j'irai moi-même. Allez, petite fille, allez, me répondit-il, un homme sans pudeur qui ne se souciait plus de mon estime et qui voulait bien que je le méprisasse autant qu'il méritait. Je ne vous crains point, vous n'êtes pas capable de me nuire. Et vous qui me menacez, criez à votre tour que je me fâche, entendez-vous? Je vous en dis pas davantage, mais on se repent quelquefois d'avoir trop parlé. Adieu, allez, ne comptez plus sur moi, je retire mes charités. Il y a d'autres gens dans la peine qui ont le cœur meilleur que vous et à qui il est juste de donner la préférence. Il vous restera encore de quoi vous souvenir de moi. Vous avez des habits, du linge et de l'argent que je vous laisse. Non, lui dis-je, ou plutôt lui criai-je, il ne me restera rien, car je prétends vous rendre tout, et je commence par votre argent que j'ai heureusement sur moi. Le voici, ajoutai-je en le jetant sur une table, avec une action vive et rapide qui exprimait bien les mouvements d'un jeune petit cœur fier, vertueux et insulté. Il n'y a plus que l'habit et le linge dont je vais tout à l'heure faire un paquet, que vous emporterez dans votre carrosse, monsieur. Et comme j'ai sur moi quelques-unes de ces hardes-là, dont j'ai autant d'horreur que de vous, je ne veux que le temps d'aller me déshabiller dans ma chambre. Et je suis à vous dans l'instant. Attendez-moi, sinon je vous promets de jeter le tout par la fenêtre. Et pendant que je lui tenais ce discours, vous remarquerez que je détachais mes épingles et que je me décoiffais, parce que la cornette que je portais venait de lui, de façon qu'en un moment elle fut ôtée, et que je restais nu-tête avec ces beaux cheveux dont je vous ai parlé et qui me descendaient jusqu'à la ceinture. Ce spectacle le démonta. J'étais dans un transport étourdi qui ne ménageait rien. J'élevais ma voix, j'étais échevelé, et le tout ensemble jetait dans cette scène un fracas, une indécence qui l'alarmait et qui aurait pu dégénérer en avanerie pour lui. Je voulais le quitter pour aller faire ce paquet dans ma chambre. Il me retenait à cause de mon impétuosité et balbutiait avec des lèvres pâles quelques mots que je n'écoutais point. « Mais rêvez-vous, à quoi bon ce bruit-là? Quelle folie! Mais laissez donc, prenez garde !» Et Madame Dutour arrive là-dessus. « Oh, oh !» me dit-elle, en me voyant dans le désordre où j'étais. « Et qu'est-ce que c'est que tout cela? Qu'est-ce donc, Sainte Vierge? Comme elle est faite, mais à qui en a-t-elle, monsieur? Où a-t-elle mis sa cornette? Je crois qu'elle est à terre, Dieu me pardonne. Mais mon Dieu, est-ce qu'on l'a battue? » Ce qu'elle demandait avec plus de bruit que nous n'en avions fait. Non, 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 dit monsieur de Climal, qui se hâta de répondre de peur que je n'en vinsse à une explication. Je vous dirai de quoi il est question. Ce n'est qu'un malentendu de sa part qui m'a fâché et qui ne me permet plus de rien faire pour elle. Je vous paierai pour le peu de temps qu'elle a passé ici, mais de celui qui y passera à présent, je ne réponds plus. « Quoi ?» lui dit Madame Dutour d'un air inquiet. « Vous ne continuez pas la pension de cette pauvre fille? Et comment voulez-vous donc que je la garde ?»« Eh, madame, n'en soyez point en peine, je ne serai point à votre charge, et Dieu me préserve d'être à la sienne. » Dis-je à mon tour d'un fauteuil où je m'étais assise, sans savoir ce que je faisais, et où je pleurais, sans les regarder ni l'un ni l'autre. Quant à lui, il s'esquivait pendant que je parlais ainsi, et je restais seul tête à tête avec la Dutour, qui, toute déconfortée, croisait les mains d'étonnement et disait: mais quel charivari! Et puis s'asseyant: n'est-ce pas là de la belle besogne que vous avez fait, Marianne? Plus d'argent, plus de pension, plus d'entretien. Accommode-toi, te voilà sur le pavé, n'est-ce pas? Un beau coup d'état, la belle équipée. Oui, on pleurait à cette heure. Pleurez, vous voilà bien avancé. Mais quelle tête à l'envers! Et laissez-moi, madame, laissez-moi, lui dis-je. Vous parlez sans savoir de quoi il s'agit. Oui, je t'en réponds. Sans savoir, ne sais-je pas que vous n'avez rien? N'est-ce pas en savoir assez? Qu'est-ce que cela qu'elle veut dire avec sa science? Demandez-moi où il ira à présent. C'est là ce qui me chagrine, moi. Moi, je parle par amitié. Et puis c'est tout, car si j'avais le moyen de vous nourrir, pardi, on s'embarrasserait beaucoup de monsieur de Clival. Et merci de ma vie, je vous dirais, ma fille, tu n'as rien, eh bien moi, j'ai plus qu'il te faut. Va, laisse-le aller, ne t'inquiète pas, il y en a pour 4, il y en a pour 5. Mais oui, da, on a beau avoir un bon cœur, on va bien loin avec cela, n'est-ce pas? Le temps est mauvais, on ne vend rien, les loyers sont chers, et c'est tout ce qu'on peut faire que de vivre et d'attraper le jour de l'an. Encore faut-il bien tirer pour y aller. Soyez tranquille, lui répondis-je en jetant un soupir. Oh, je vous assure que j'en sortirai demain, à quelque prix que ce soit. Je ne suis pas sans argent, et je vous donnerai ce que vous voudrez pour la dépense que je ferai encore chez vous. « Quelle pitié !» me répondit-elle. « Et mais Marianne, où est donc venue cette misérable querelle? Vous avez tant prêché, tant recommandé de ménager cet homme. »« Ne m'en parlez plus, lui dis-je, c'est un indigne. Il voulait que je vous quittasse et que j'allasse loger, loin d'ici, chez un homme de sa connaissance, qui apparemment ne vaut pas mieux que lui, et dont la femme devait me venir prendre demain matin. » Ainsi, quand je n'aurais pas rompu avec lui, quand j'aurais fait semblant de consentir à ses sentiments, comme vous le dites, je n'aurais pas demeuré plus longtemps chez vous, madame Dutour. Ah, 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 s'écria-t-elle, c'est donc là son intention? Vous retirez de chez moi pour vous mettre en chambre avec quelques canailles? Ah, pardi, mais cela est bonne. Ah, ah, mais voyez-vous ce vieux fou, ce vieux peinard avec sa mine d'apôtre? À le voir, on le mettrait volontiers dans une niche, et pourtant il me fourbait aussi. Mais à propos de quoi vous allez planter ailleurs? Est-ce qu'il ne pouvait pas vous voir ici? Qu'est-ce qui l'en empêchait? Il était le maître, et il n'avait qu'il prenait soin de vous, que c'était une bonne œuvre qu'il faisait. Oh, et tant mieux. Je l'avais pris sur mot. Moi, est-ce qu'on trouble un homme une bonne œuvre? Au contraire, on est bien avant d'y avoir part. Ma tour épluchée, si elle est mauvaise. Il n'y a que Dieu qui sache la conséquence des gens, et veut qu'on en pense bien de son prochain. Et de quoi avait-il peur? Il n'avait qu'à venir et aller son train. Dès qu'il dit qu'il est homme de bien, lui aurais-je dit, tu as menti? N'avez-vous pas votre chambre? Y aurais-je été voir ce qu'il vous disait? Que lui fallait-il donc? Je ne comprends pas la fantaisie qu'il a eue. Pourquoi vous changez de lieu, dites-moi? C'est, repris-je négligemment, qu'il ne voulait pas que M. de Valville, chez qui on m'a porté, et à qui j'ai dit où je demeurais, va me voir ici. Ah, nous y voilà, dit-elle. Oui, j'entends. Vraiment, je ne m'étonne pas. C'est que l'autre est son neveu, qui n'aurait pas pris la bonne œuvre pour argent comptant et qui m'aurait dit « Qu'est-ce que vous faites de cette fille ?» Mais est-ce qu'il est venu, ce neveu? Il n'y a que le moment qu'il vient de sortir, lui dis-je, sans entrer dans un plus grand détail. Et c'est après qu'il a été parti que M. de Climal s'est fâché de ce que je refusais de me retirer demain, où il me disait et qu'il m'a reproché ce que j'ai reçu de lui, ce qui a fait que j'ai voulu lui rendre le tout, même jusqu'à la cornette que j'avais et que j'ai ôtée. « Quel train que tout cela !» s'écria-t-elle. « Allez, vous avez bien eu du guignon de vous laisser choir justement auprès de la maison de ce monsieur de Malville. Eh mon Dieu, comment est-ce que le pied vous a glissé? Ne faut-il pas prendre garde où l'on marche? Marianne, vous voyez ce que c'est que d'être étourdi. Et puis en second lieu, pourquoi aller dire à ce neveu où vous demeurez? Est-ce qu'une fille donne son adresse à un homme? Et ne saurait-on avoir le pied foulé sans dire où on loge? Car il n'y a que cela qui vous nuit aujourd'hui. » Je ne faisais pas grande attention à ce qu'elle me disait, et ne lui répondais même que par complaisance. « Enfin, ma fille, continua-t-elle, de remède, je n'y en vois point. Voyez, avisez-vous, car après ce qui est arrivé, il faut bien prendre votre parti, et le plus tôt sera le mieux. » Je ne veux point d'esclandre dans ma maison, ni moi ni ton nom n'en avons que faire. Oh, je sais bien que ce n'est pas votre faute, mais il importe, on prend tout à rebond dans ce monde. Chacun juge et ne sait ce qu'il dit, les cas qui viennent. Et qui est-il et qui est-elle, et où est-ce que c'est et où est-ce que ce n'est pas? Ceci n'est pas agréable. Sans compter que nous ne vous sommes de rien, ni vous de rien à nous, pour une parente, pour la moindre petite cousine, encore passe, mais vous ne faites ni de près ni de loin, ni à nous ni à personne. Vous m'affligez, madame, lui répartis-je vivement. Ne vous ai-je pas dit que je m'en irais demain? Est-ce que vous voulez que je m'en aille aujourd'hui? Oh, ce sera comme il vous plaira. « Non, ma fille, non, non, me répondit-elle. J'entends raison, je ne suis pas une femme si étrange. Et si vous saviez la pitié que vous me faites, assurément vous ne plaindriez pas de moi. Non, vous vous coucherez ici, vous y souperez. Et ce qu'il y aura, nous le mangerons de notre argent. Je n'en veux point, et si par hasard il y a occasion de vous rendre quelque service, par moyen de mes connaissances, ne m'épargnez pas. Au surplus, je vous conseille une chose. C'est de vous défaire de cette robe que M. de Climal vous a donnée. Vous ne pourriez plus honnêtement la porter à cette heure que vous allez être pauvre et sans ressources. Elle serait trop belle pour nous, aussi bien que ce linge si fin qui ne servirait qu'à faire demander où vous l'avez pris. Croyez-moi, quand on est gentil à votre âge, pauvreté et bravoure n'ont pas bon air ensemble. On ne sait qu'en dire. Ainsi, point d'ajustement. C'est mon avis. Ne gardez que les hardes que vous aviez quand vous êtes entré ici et vendez le reste. Je vous l'achèterai même si vous voulez. Non pas que je m'en soucie beaucoup, mais j'avais deviné dessein de m'habiller. Et pour vous faire plaisir, tenez, je m'accommoderai de votre robe. Je suis un peu plus grasse que vous, mais vous êtes un peu plus grande, et comme elle est ample, j'ajusterai cela. Je tâcherai qu'elle me serve. Et à l'égard du linge, je vous le paierai, ou je vous en donnerai d'autres. Non, madame, lui dis-je froidement, je ne vendrai rien parce que j'ai résolu et même promis de remettre tout à monsieur de Climal. À lui, reprit-elle. Mais vous êtes donc folle. Je le lui remettrai comme je danse, pas plus à lui qu'à Jean de Vert. Il n'enverrait pas seulement une rognure, ni petite ni grosse. Vous vous moquez, n'est-ce pas, une aumône qu'il vous a faite? Et ce qu'on a remis, savez-vous bien qu'on ne l'a plus, ma fille? Elle n'en serait pas restée là, sans doute, et se serait efforcée, quoique inutilement, de me convertir là-dessus, sans une vieille femme qui arriva et qui avait affaire à elle, et dès qu'elle m'eut quitté, je montai dans notre chambre. Je dis la nôtre, parce que je la partageais avec toi, non. De mes sentiments à l'égard de M. de Climal, je ne vous en parlerai plus. Je n'aurais pu tenir à lui que par de la reconnaissance. Il ne méritait plus de ma part. Je le détestais. Je le regardais comme un monstre, et ce monstre m'était indifférent. Je n'avais point de regret que c'en fût un. Il était bien arrêté que je lui rendrais ses présents, que je ne le reverrais jamais. Cela me suffisait, je ne songeais presque plus à lui.